Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, le capitaine Ibrahim Traoré galvanise les volontaires pour la défense de la patrie sur un des sites de formation. La consigne est claire, nous n'allons plus faire cette défensive passive parce que nous allons attaquer, soutient le chef de l'État. Justement, par rapport au VDP, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement burkinabé décide la création d'un fonds de soutien aux volontaires pour la défense de la patrie avec un besoin de financement de près de 100 milliards de francs CFA. Nous en parlons dans cette édition. Et pour se mettre en phase avec la dynamique gouvernementale, les ministres de la Transition ont décidé de céder 5% de leur salaire mensuel pour contribuer à l'effort de guerre. En visite au Burkina Faso, le président en exercice de la CEDEAO, Oumarou Sissoko Ambalo, s'inquiète de la mise en œuvre de la transition et réaffirme le soutien de l'institution sous-régionale à accompagner le Burkina Faso. En fin d'édition, vous entendrez Idriss Ouedraogo, conseiller en communication et analyste politique. Avec notre invité du jour, il sera question de la brouille diplomatique entre Bamako et Abidjan. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous vous l'annoncions en titre, le gouvernement burkinabé a décidé hier à l'issue du Conseil des ministres la création d'un fonds de soutien aux volontaires pour la défense de la patrie avec un besoin de financement de près de 100 milliards de francs CFA. Nous écoutons donc à cet effet Aboubakar Nakanabo, ministre en charge des finances, pour plus de détails.
Le Conseil a adopté un rapport portant création du fonds de soutien aux volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agit de la contribution des Burkinabés à la lutte contre l'insécurité, notamment par le soutien des volontaires pour la défense de la patrie. Ce fonds a plusieurs composants, dont un composant sur la contribution des fonctionnaires et des travailleurs du privé. Et pour ces composants, nous avons voulu qu'ils soient volontaires dans la mesure où on n'a pas pu dégager un consensus parmi les partenaires sociaux pour la contribution. Et donc, de façon concrète, ce qui sera fait, nous allons disponibiliser des fiches en ligne comme de façon physique pour que les fonctionnaires qui veulent apporter leur contribution puissent le faire en fonction des taux qu'ils vont eux-mêmes proposer. Alors à côté, il y a un composant du fonds qui concerne les taxes sur la consommation des boissons, sur la consommation également du tabac. Et il y a une contribution qui va être demandée également sur la consommation en matière de télécommunications et également sur les jeux de hasard. Donc il y a une panoplie de biens qui sont concernés. L'essentiel, c'est d'arriver à alimenter les fonds de soutien aux volontaires pour la défense de la patrie. Et nous attendons un montant de près de 100 milliards pour pouvoir faire face donc aux dépenses liées aux volontaires pour la défense de la patrie. Par dépenses, nous entendons la prise en charge des VDP. Nous entendons également l'équipement des VDP. L'équipement concernera donc l'acquisition de motos, l'acquisition d'armes, l'acquisition de tout ce qu'il faut pour que les VDP soient opérationnels sur le terrain.
S'inscrivant donc dans la dynamique de contribution à l'effort de guerre, les ministres à l'issue du Conseil des ministres ont décidé de céder 5% de leur salaire mensuel. Pour le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, il s'agit pour chaque Burkinabé d'être acteur de la libération du Burkina Faso des mains des terroristes.
La transition a affirmé de façon claire la volonté de pouvoir donc mener cette guerre-là de façon souveraine. Il faut que les Burkinabés eux-mêmes soient les acteurs de la reconquête de notre territoire et de la refondation de notre pays. Et pour cela, le gouvernement invite tous les citoyens véritablement à adhérer à cette initiative afin que nous puissions par nous-mêmes être les acteurs de la libération de notre pays. Et pour ce faire, les membres du gouvernement, de façon unanime, ont décidé chacun de céder 5% de son salaire mensuel comme contribution à ce fonds de soutien donc aux volontaires pour la défense de la patrie.
Pour aussi alimenter le fonds de soutien au VDP, le gouvernement de la transition a décidé, à travers la loi de finances exercice 2023, de taxer conséquemment les boissons très alcoolisées et ou énergisantes pour compter du 1er janvier 2023. Cette initiative contribuera également à lutter contre la prolifération des boissons nuisibles à la santé des populations. Charles Da.
Les boissons seront désormais taxées à 15% pour les sucreries et autres boissons non alcoolisées, 30% pour les bières alcoolisées à moins de 8 degrés d'alcool, 40% pour les bières de plus de 8 degrés d'alcool, 50% pour les boissons énergisantes et les autres boissons alcoolisées à moins de 35 degrés d'alcool et 70% pour les autres boissons alcoolisées à plus de 35 degrés et les vins. Le taux de la taxe sur les tabacs est également rehaussé et passe de 50 à 55%. Le Code général des impôts prévoit aussi une augmentation du taux de retenue à la source sur les gains des paris et des autres jeux de hasard qui passe de 10 à 15%. Le gouvernement a expliqué qu'il vise à lutter contre la prolifération des dites boissons nuisibles à la santé des populations. Les nouvelles mesures fiscales concernent également le tabac. Le taux de la taxe sur le cigare, la cigarette et le cigario est passé de 50 à 55% conformément à la directive de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Afin de lutter contre la prolifération de certaines boissons très alcoolisées et énergisantes, nuisibles à la santé des populations, une taxation conséquente de ces boissons pourrait décourager la consommation excessive. Mais pour certains spécialistes, cette décision du gouvernement vise à avoir un financement dans la lutte contre le terrorisme.
Justement, par rapport à cette taxe, une équipe de Omega Media est allée à la rencontre des Ouagalais pour recueillir leurs avis. Suivons ce micro-trottoir de Jean-Paul Ouédraogo.
Mon humble avis par rapport à l'augmentation du prix de la cigarette et de l'alcool, je pense que pour soutenir l'effort de guerre, je pense que c'est une très bonne initiative. Concernant la cigarette, ce n'est pas une bonne chose pour la santé de l'homme. Et surtout, eu égard au fait que c'est des consommables liés au plaisir, c'est très important. Donc on peut profiter de ça. Pour les consommateurs, bon, moi je pense que comme c'est un addictif, ça ne va pas trop les affecter. Parce que quand tu es dépendant de quelque chose, tout compte fait, tu fais tout pour pouvoir consommer la chose.
Et pour moi, c'est déjà très très bonne initiative. Parce que déjà, la cigarette et l'alcool, c'est déjà nuisible pour la santé. Alors une petite augmentation ne fera pas du mal à personne. Moi, ce serait mon souhait. Qu'à cause de ça, beaucoup arrêtent même de boire et de fumer.
Pour moi, en soi, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, vous voyez un peu la jeunesse qui est là. Bon, ce sont les vices de la jeunesse, au fait. Ce sont les vices de la jeunesse. Et en augmentant ça, d'autres personnes ne pourront pas avoir ces trucs-là aussi facilement, surtout les enfants et tout. Donc pour moi, je trouve que c'est une bonne chose.
Bah, pour moi, l'augmentation du prix de la cigarette est une très bonne chose. Voilà, parce que ça va permettre aux jeunes qui fument beaucoup d'arrêter de fumer. Voilà, déjà que la cigarette nuit à la santé de la population. Voilà. Moi-même, je propose même qu'on augmente le prix même à 200 francs le bâton. Voilà, ça va permettre aux uns aux autres qui fument d'arrêter de fumer.
Toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré s'est rendu vendredi dernier dans un site de formation des volontaires pour la défense de la patrie. Le capitaine Ibrahim Traoré a galvanisé ses VDP. À travers donc cette visite, nous n'allons plus faire cette défense passive parce que nous allons attaquer, selon le chef de l'État. Le point de cette visite avec Jean-Paul Ouédraogo.
Selon un communiqué de la présidence, le capitaine Ibrahim Traoré s'est rendu vendredi dernier dans un des sites de formation des VDP. Vous ne serez pas seul, vous allez combattre avec nous dans les rangs de l'armée et nous allons libérer nos terres, nous allons donner espoir de vie à ces populations meurtries, a dit le capitaine. Le président Traoré a rassuré, toujours selon le communiqué, que les moyens seront mis en œuvre pour soutenir et accompagner les VDP dans leur déploiement sur le terrain. Face au VDP, le chef suprême des forces armées nationales a fustigé l'attitude et le comportement de certains Burkinabés qui rament à contre-courant de la volonté du peuple de se battre pour libérer le pays, peut-on lire dans le communiqué de Kossiam. Vous êtes l'espoir et ne vous laissez pas démoraliser par des apatrides qui sont là pour décourager cet élan patriotique, a dit Ibrahim Traoré, soulignant que la stratégie de l'ennemi est de susciter un conflit entre les communautés. Actuellement, ils sont en train de tirer sur la fibre ethnique pour espérer une guerre ethnique. Ça n'existe pas et ça n'existera pas au Burkina Faso, explique-t-il. Vous, VDP nationaux, ici présents, vous avez fait le vœu de vous battre partout au Burkina Faso et nous irons partout au Burkina Faso pour nous battre. Nous allons nous engager avec toute l'énergie nécessaire et nous allons vous accompagner là où vous devez partir parce que pour cette patrie, nous verserons la sueur qu'il faut, le sang qu'il faut pour la sauver, pour la préserver, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré.
Et puis, bonne marche de la transition, le président en exercice de la CEDEAO a rencontré hier le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Au menu des échanges, la conduite de la transition, le soutien de la CEDEAO et le rôle que pourraient jouer certains partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Une visite qui intervient quelques heures après celle de la secrétaire d'État française au développement. Plus de détails avec Bernabé Cabré.
Début décembre, des médiateurs de la CEDEAO ont présenté lors du sommet à Abuja des rapports de missions effectuées dans les trois pays suspendus, que sont le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. En effectuant le déplacement ce mercredi à Ouagadougou pour échanger avec le capitaine Ibrahim Traoré, le président Oumarou Sissoko Ambalo dit être venu s'enquérir de l'évolution de la situation et réaffirmer que la CEDEAO n'a pas oublié le Burkina Faso.
Et dernier sommet de 4 décembre au Nigeria, tous les chefs d'État étaient unanimes pour soutenir les doléances et ces requêtes qu'il avait fait à la CEDEAO concernant cette lutte contre les djihadistes, en particulier au Burkina, mais on sait le problème, quand on dit le djihadisme, ça frappe toutes nos zones ouest africaines et cela préoccupe beaucoup notre organisation qui est la CEDEAO. Et aujourd'hui, encore après nos échanges, j'ai compris beaucoup de choses qui se passent au Burkina.
Le Burkina Faso a connu deux coups d'État en 2022, ce qui a eu comme conséquence la suspension du pays par la CEDEAO à l'image du Mali et de la Guinée. Le président en exercice a insisté que l'institution sous-régionale n'est pas là que pour sanctionner.
L'esprit de la CEDEAO, ce n'est pas des sanctions, ce n'est pas pour imposer. La CEDEAO, c'est nous tous. Même aujourd'hui, les pays qui sont en transition, qui sont exclus de la CEDEAO, ils peuvent savoir, ils font partie de la CEDEAO. Et nous sommes là pour aider et accompagner tous les pays qui sont en transition. Et concernant la transition, il m'a fait comprendre que ça se passe bien. Et là, on a un médiateur qui suit de près la situation de la transition au Burkina Faso.
Les échanges vont se poursuivre avec les autorités de la transition, avec comme perspective, selon Oumarou Sissoko Ambalo, d'aider tous les pays en proie aux attaques terroristes à lutter contre ce fléau.
Les accidents ont fait plusieurs victimes durant l'année 2022. Durant les 12 mois écoulés, 692 personnes ont perdu la vie dans des accidents, incendies, noyades et autres. C'est le bilan dressé hier par la BNSP, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les soldats du feu ont effectué 20 256 interventions pour secourir 21 413 personnes. Les chiffres sont en baisse par rapport à 2021 et l'on déplore toujours de fausses alertes du fait d'individus mal intentionnés. Plus de détails avec Mariam Souma.
La Brigade nationale de sapeurs-pompiers a été beaucoup sollicitée durant les fêtes de fin d'année. Les chiffres sont sensiblement les mêmes par rapport à l'année 2021. Le 1er décembre, les soldats du feu ont effectué 43 interventions, 64 le 25 décembre, 81 le 31 décembre et 105 le 1er janvier 2023. Ces interventions concernent uniquement les accidents de la circulation. Si on prend en compte les secours aux victimes, les incendies et les diverses alertes, la BNSP accumule un total de 359 interventions, soit une de moins qu'en 2021. Ces interventions ont fait 15 morts, dont 6 pour la seule journée du 24 décembre. En 2021, 6 personnes avaient aussi perdu la vie le 24 décembre à cause des accidents de la circulation. Jetons un coup d'œil aux chiffres de l'année 2022. La BNSF a fait 20 256 interventions entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Il s'agit d'accidents de la circulation, de secours à victimes, de faits d'animaux, d'assistance à personnes, de lutte contre la pollution, d'incendies, mais aussi de fausses alertes. Des interventions effectuées par toutes les 12 compagnies de la BNSP. 992 personnes ont perdu la vie. Comparé à l'année 2021, les chiffres sont en baisse. 972 accidents de moins et 20 décès de moins par rapport à l'année 2021.
La revue de presse.
Plusieurs sujets intéressent nos quotidiens du jour. Selon l'observateur Palga, hier mercredi, cela faisait 10 ans que l'opération Serval, du nom de ce félin du désert, a été lancée. L'Express du Faso revient sur le choix des partenaires et la visite de la secrétaire d'État française, Chrysoula Zakharopoulou. Le journal Le Quotidien, quant à lui, évoque le recouvrement de créances de l'État par l'ASELC. La revue de presse est signée par Valérie Guéry.
Dans sa parution du jour, l'Express du Faso revient sur le choix des partenaires, précisément le choix entre la France et la Russie, et le journal Bobolais de titrer à sa une « France ou Russie ». Pourvu qu'on gagne dans la souveraineté, pour notre confrère de l'Express du Faso, dans tous les cas, avec la France et la Russie, il y a des avantages comme des inconvénients. Il appartient aux autorités burkinabées de la transition de faire en sorte d'un côté comme de l'autre, les inconvénients soient considérablement minimisés, propose ce quotidien burkinabé. En tout état de cause, comme pour reprendre un proverbe africain, celui qui dort sur la natte d'autrui dort par terre, renchérit l'observateur Palga, pour l'Obs, qu'il s'appelle France, États-Unis, Chine, Russie ou même Turquie, tant qu'on continuera à sous-traiter notre propre sécurité avec des puissances, grandes ou moyennes, on ne sortira jamais de l'ornière. En attendant de se trouver un partenaire, le journal Le Quotidien salue l'initiative lancée par l'État de recouvrir les créances. Une initiative salutaire qui doit faire tache d'huile, martèle ce journal qui, pour lui, voilà une belle action qui va sans doute rassérener bon nombre de Burkinabés. Dans la situation économique particulière du Burkina Faso, il est plus que jamais urgent de recouvrer toutes les créances de l'État afin de faire face aux nombreux défis, souligne le journal Le Quotidien. À l'international, nos éditorialistes s'intéressent au retour de l'opposition béninoise dans l'arène politique. Pour le journal Le Pays, tout se passe comme si, après avoir pris conscience qu'il vendangeait les acquis démocratiques de son pays, le président Patrice Talon a décidé de se rattraper en ouvrant un tant soit peu le jeu politique. Cela est d'autant plus vraisemblable qu'après 4 années d'absence, l'opposition longtemps malmenée siégera désormais à l'Assemblée nationale. C'est la démocratie béninoise qui gagne, opine le journal des 1200 logements. Mais quelle marge de manœuvre pour les démocrates face au pouvoir à l'Assemblée nationale? Entreront-ils au gouvernement si Talon le propose? Le businessman de 64 ans qui veut gouverner le pays, comme il dirigeait ses sociétés en tant que PDG, a-t-il déjà un plan pour la prochaine présidentielle à laquelle il ne peut plus concourir? Quel avenir pour les démocrates et l'opposition? Ce sont autant de questions que se pose notre confrère d'aujourd'hui au Faso.
L'invité du jour. L'invité du jour.
La brouille diplomatique entre Bamako et Abidjan semble avoir connu un dénouement heureux. Idriss Ouédraogo, conseiller en communication et analyste politique, estime que toutes les deux parties sortent gagnantes dans cette affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022. Idriss Ouédraogo répond aux questions de Bruno Bayala.
Bonjour Monsieur Drago.
Oui, bonjour.
Assimi Goïta accorde une grâce présidentielle aux soldats ivoiriens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis le dimanche dernier. Est-ce que vous pensez que la grâce présidentielle accordée est la fin de cette crise entre Bamako et donc Abidjan?
C'est une autre page qui va s'ouvrir dans les relations internationales entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il n'y a pas de fin en fait. Cet élément-là vient s'ajouter à une série d'activités ou d'événements qu'il y a entre les deux pays.
Quand on a suivi le discours du président Alassane Ouattara, après donc l'accueil de ces soldats de retour de Bamako, n'a même pas osé aussi féliciter de façon officielle Goïta qui a permis aussi ce retour-là. C'est pas un message en fait qu'il lance que la Côte d'Ivoire soit victorieuse de cette crise-là.
Oui, est-ce qu'il y a véritablement un perdant? C'est une situation complexe où apparemment il y a deux gagnants. Peut-être qu'on peut dire que le Mali a plus gagné, mais la Côte d'Ivoire n'est pas sortie perdante. Et les témoins de la sous-région, notamment la CDAO, n'est pas sortie perdante dans la mesure où il y avait un risque, un conflit armé entre ces pays-là. On a tous gagné, certains ont gagné beaucoup plus que d'autres, mais la Côte d'Ivoire a en réservant cet accueil, notamment le président Alassane a su capitaliser sur quelque chose qui aurait pu dériver, parce que on connaît les remous sociaux en Côte d'Ivoire, on n'est pas sûr que la crise ivoirienne soit terminée, et tout argument de déstabilisation de l'armée, de division de la société ivoirienne est un risque. Il a pu quand même réunir son peuple autour de son armée, il a pu pacifier un peu ou calmer l'armée, et je pense qu'il a tiré un bon parti avec cet événementiel en quelque sorte qui a été organisé.
Alassane Ouattara n'est pas sorti perdant, mais si toutefois il n'avait pas su gérer donc cette crise diplomatique, est-ce qu'on pourrait penser aussi à une conséquence un peu fâcheuse de la classe politique, mais qui l'accuserait donc d'avoir jeté ses soldats dans la gueule du loup?
Oui, on a même déjà vu les velléités, il y a eu des accusations, des artistes ainsi de suite sont sortis. Je pense qu'il a joué avec des dextérité. Il a pris des risques au début avec des délais qu'il donnait, des ultimatums, mais très vite il s'est rangé. Il a compris les enjeux parce qu'il risquait une zizanie au sein de l'armée. Il risquait aussi qu'une bonne partie de la communauté ivoirienne, qui est d'origine malienne quand même, quoi qu'on dise, que tout cela ne se prête encore à l'orée des élections. Il y a même déjà des élections cette année. Il ne voulait pas prendre de risque et il a bien fait de se ressaisir. Donc oui, le fait de ne pas citer le président Goïta dans ses propos, ça se comprend. Mais le président transparaissait à toutes les phrases en vérité. Et c'est de bonne guerre dans tous les cas. Cela s'est terminé comme le président malien le voulait. Il a tiré tous les profits qu'on pouvait en tirer. C'est curieux, mais c'est une situation atypique où il y a des vainqueurs, mais il n'y a pas de vaincus.
Quelles peuvent être les répercussions de la bonne gestion de cette crise-là pour le Togo?
Je ne sais pas s'il y aura quelque chose de particulier. De toutes les manières, c'est le jeune doyen de la sous-région. Il a hérité d'une posture importante dans ce qu'on a appelé la France-Afrique. Il joue à fond cela. Il est encore jeune. Je pense que, n'empêche, entre les nations, il n'y a que des intérêts. Maintenant, il y a des facteurs individuels, des facteurs particuliers qui accélèrent ou ralentissent des relations. Donc, je crois que pour le Togo et pour lui-même...
L'ONU a réagi, la CEDEAO a réagi. Il n'y a pas eu une félicitation à l'endroit du président Goïta dans cette crise-là. Est-ce à dire que Goïta a échoué dans cette crise-là?
Encore faut-il que le Mali ou ceux qui soutiennent le président Goïta s'attendent d'une appréciation quelconque. C'est moins important. En vérité, leurs appréciations n'engagent que, tout comme les appréciations des Maliens n'engagent que les Maliens, le tout c'est le factuel. Est-ce que chacun a atteint ses objectifs? Et c'est le plus important.
Alors que pensez-vous d'une invitation du président Alassane Ouattara au président Goïta à Abidjan?
La vérité c'est que ce serait bien séant que le président ivoirien aille au Mali pour se féliciter d'eux. Sauf que dans le partage des rôles, ce n'est pas la meilleure mise en scène possible. Il gagnerait, il voudrait bien qu'il vienne à ce niveau, mais ça va m'étonner que le président malien, qui semble avoir déjà capitalisé suffisamment sur cela, mais il n'est pas totalement satisfait parce que sa demande initiale était quand même qu'on lui renvoie les personnes poursuivies par la loi. Il ne l'a pas obtenu. Sinon, le communiqué qui accorde la grâce ne viendrait pas sur des dimensions géopolitiques, mais ils ont tenu à rappeler ces choses-là, montrer la position, la posture diplomatique du Mali comme un pays qu'on ne peut plus influencer, qu'on ne peut plus effrayer. Ils profitent de tout pour réaffirmer cela. Tant qu'un refus sur un mois, 5 ans encore pourront permettre au Mali d'affirmer sa souveraineté et le feront. Comme j'aime à le répéter, les relations internationales n'ont que faire des nations faibles. Une nation, c'est la force, c'est la puissance.
Ça dit que vous êtes contre les relations internationales.
Ah non, non, non. Je suis pour le respect des principes. Par exemple, pour le Burkina, il ne faut pas rêver du tout qu'on va venir à bout du terrorisme ou de la pauvreté ou de l'ignorance en étant des bénis oui-oui.
Que retenir finalement de cette crise?
Oui, ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, il faut faire en sorte que chaque événement, même le cas du terrorisme ici, on sorte encore plus grandi plutôt que d'être en train de larmoyer, de pleurnicher.
Merci à vous, M. Drago, d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Fidèle Compaoré au niveau du live Facebook. Nadège Yabré à la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.